Michel Ondrilwanga, bonjour.
Bonjour Inès.
Dans le rapport de Amnesty International publié ce mois d'octobre, l'organisation note un manque de transparence dans les affaires en cours devant la Cour pénale spéciale. Comment réagissez-vous à ce rapport ?
C'est vrai que la Cour pénale spéciale est appelée également à faire usage des normes internationales, mais en ce qui concerne la question relative à la détention provisoire, il faut retenir que ce sont nos tests nationaux qui sont applicables. La Cour fonctionne avec le code pénal centrafricain, le code de procédure pénale centrafricain et la loi de règlement de procédure et de preuves votée par les députés centrafricains. Ce sont donc ces différents tests que nous sommes appelés à appliquer.
On sait qu'il revient à dire que ces textes de loi autorisent à ce que la CPS ne donne pas assez de transparence sur ses activités.
Conformément aux tests applicables, vous allez vous rendre compte que dans le code de procédure pénale et même dans la loi de règlement de procédure et de preuve, la phase d'instruction préparatoire est couverte par la confidentialité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les actes qui sont posés par les juges d'instruction sont couverts par la confidentialité. Et lorsque nous avons vu la comparaison qui a été faite, c'est vrai, nous pensons peut-être que c'est une suggestion de la part de l'Amnesty International qui souhaiterait que nos dispositions ou bien la Cour puisse fonctionner en ce qui concerne ce domaine de détention provisoire, comme la Cour pénale internationale, par exemple. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes des juges, nous sommes appelés à appliquer la loi. En cette matière, lorsque une personne fait l'objet d'une enquête, le procureur, après avoir bouclé la phase de l'enquête préparatoire, met l'inculpé ou le suspect à la disposition du juge d'instruction qui est appelé à se prononcer sur ces mesures provisoires, à savoir la détention provisoire. Et dans notre jargon, cela se déroule dans la phase de la première comparution devant le juge d'instruction. À ce stade-là, il y a le suspect assisté de son avocat, le procureur. Les débats se tiennent à huis clos. C'est à l'issue de cette audience de première comparution que le juge décide de la mesure de détention. Par conséquent, on ne peut pas rendre publique une audience qui s'est tenue à huis clos. Alors, à partir du moment où nos lois, nos tests ne nous autorisent pas à publier les décisions qui sont rendues au niveau du cabinet d'instruction, nous sommes des juges, nous ne pouvons que appliquer la loi. Rendre publiques les décisions qui sont rendues à ce niveau par les juges d'instruction, ça serait la violation de la loi par les juges de la Cour et également la violation de leur serment. Il y a cet aspect purement juridique lié au test que je viens d'évoquer, mais il y a aussi l'aspect sécuritaire. Ces questions de transparence, les personnes qui comparaissent devant le juge d'instruction et qui sont placées en détention provisoire sont assistées de leur avocat.
Mais là, vous parlez des avocats alors que la CPS a publié la liste des avocats récemment. Est-ce que les avocats ont travaillé bien avant qu'ils soient officiels?
C'est une très bonne question que vous avez posée. Vous devriez comprendre que la loi qui crée la Cour pénale spéciale avait prévu une disposition transitoire. Je crois que c'est l'article 184 qui dit clairement que, à défaut, c'est-à-dire lorsque le corps d'avocat n'est pas encore mis en place, n'est pas encore opérationnel, le président du tribunal peut désigner d'office des avocats inscrits sur le tableau de l'ordre des avocats centrafricains pour pouvoir assister les personnes qui sont en conflit avec la loi. Nous avons utilisé cet article-là pour pallier à l'urgence.
Et combien de personnes sont en détention provisoire pour le compte de la CPS?
Mais vous avez lu dans le rapport, effectivement, nous avons 21 personnes qui sont là. Et pas plus tard que la semaine dernière, je me suis entretenu avec ces personnes-là qui m'ont fait part de leurs difficultés. Et quand je suis revenu, j'ai également saisi les juges d'instruction pour voir dans quelle mesure ils peuvent intervenir pour régler ces petits problèmes. Et contrairement à ce que j'ai lu dans la publication de Journal Info Justice, les personnes qui sont en détention ne se sont jamais plaints de ce qu'ils n'avaient pas d'avocat. Au contraire.
Et qui sont ces personnes en détention provisoire et pourquoi sont-elles arrêtées?
Vous revenez à cette préoccupation qui consiste à dire qu'il faut donner les noms. Mais si je vous dis que moi-même, en tant que président, je ne suis pas vraiment en mesure de connaître les noms des uns et des autres dans une procédure gérée par des juges d'instruction, vous n'allez peut-être pas le croire. Mais c'est tout simplement parce que je ne peux pas violer le principe qui dit que l'instruction préparatoire est secrète et demander à des juges qui me communiquent les noms des gens qui sont en détention.
Plusieurs présumés auteurs de crimes sont en liberté et pour Amnesty International, ce sont des voyous qui sont arrêtés, qu'en dites-vous?
C'est eux qui pensent peut-être que ce sont des voyous. Pour nous, on ne peut pas aller arrêter des voyous dans la rue et puis poursuivre. Je vais vous dire que nous sommes aussi les défenseurs des droits de l'homme. Quand je dis nous, je parle des magistrats. Le procureur spécial qui déclenche l'enquête ne le fait pas aussi à la légère. Il a des informations et ces informations-là sont vérifiées au niveau de l'enquête préliminaire. Et les juges, même avant de décider de placer quelqu'un sous mandat de dépôt, ont des indices comme quoi telle ou telle personne est vraiment impliquée dans les faits qui se sont déroulés. Les gens qui sont arrêtés sont des voyous, mais pour nous, ce ne sont pas des voyous.
Michel André Luanga, combien de dossiers sont déjà bouclés et qui attendent seulement le procès?
Dire qu'il y a des dossiers qui sont déjà bouclés, qui attendent seulement le procès, ça serait ne pas dire la vérité. On l'a dit, tout dernièrement, nous avons organisé un atelier, on a expliqué que nous avons 10 dossiers en instruction préparatoire. Donc, ce sont ces 10 dossiers sur lesquels les juges travaillent. Ils vont boucler pour dire tel dossier est en état d'être jugé. Mais toujours est-il que tout ce que nous avons prévu initialement connu des difficultés de réalisation par rapport à certaines difficultés. Peut-être que nous allons aborder cette question des difficultés, mais si les choses se déroulaient exactement comme nos prévisions, je crois que, également s'il n'y avait pas cette pandémie COVID-19, à la fin de cette année, déjà on pouvait parler des procès.
Et finalement, le procès est prévu pour quand?
Bon, je peux simplement vous dire que si, et seulement si, les difficultés que nous avons en ce qui concerne, par exemple, le recrutement des juges internationaux, si ces problèmes-là sont réglés.
Donc le procès est conditionné avec le recrutement des juges internationaux?
Bien sûr, madame, qui rend la justice? Ce sont les acteurs de justice, en premier lieu, les juges. Il faut absolument les deux juges, à savoir le juge national et le juge international, pour que le travail puisse s'effectuer. Les juges nationaux, en principe, devaient être au nombre de 13, les juges internationaux au nombre de 12. Aujourd'hui, des efforts ont été faits et nous avons au moins 10 juges nationaux qui sont là. Par contre, en ce qui concerne nos collègues internationaux, nous n'avons que 5. Ça pose problème.
Et maintenant, pour finir cet entretien avec vous, Michel Londré Luanga, vous êtes le président de la Cour pénale spéciale. Les avocats de Alfred Yekatom Rombo demandent son transfert devant la CPS. Est-ce possible ou pas?
Tout dernièrement, lorsque Madame la procureure est venue ici au pays, elle a donné la date du procès de ses deux compatriotes. Ce qui suppose que cette question a été déjà réglée. Alors donc, pour nous, si c'est réglé qu'ils devront être jugés par la CPI,